Nous avons tous rencontré des personnes zélées dans le milieu chrétien. Peut-être que vous regardez des sites ou des conférences ou des vidéos sur YouTube et vous voyez des gens qui sont vraiment zélés. Donc peut-être que vous les avez rencontrés dans le milieu d'une église. Voilà. Cette semaine, on a rencontré quelqu'un qui disait qu'il lisait 5 psaumes par jour, par exemple. Oh, assez zélé. Comment sont ces personnes zélées? Souvent, elles ont une grande ferveur pour Dieu. Elles sont ferventes d'esprit. Ça bouillonne à l'intérieur. En plus, elles parlent beaucoup du Seigneur. Du matin au soir, on a l'impression que dès le déjeuner, ils sont en train de parler de Dieu. Et puis en plus, elles prennent la Bible très au sérieux. Toujours en train de dire, ah oui, mais la Bible, la Bible, la Bible. Et en plus, ce sont des gens qu'on décrirait comme très pratiquants. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ces personnes zélées? Ben, c'est possible qu'on soit un peu intimidé. On dit, ouh, moi je ne suis pas vraiment zélé comme elle ou comme lui. Mais aussi on a envie de les imiter. On se dit, ouais, je veux essayer d'être impressionnant dans mon zèle, dans ma ferveur, comme lui ou comme elle. On ne se sent pas à la hauteur. Et alors on doit réfléchir parce que ce matin, on va vraiment penser à ce qu'on fait par rapport à ces personnes zélées. On doit réfléchir un petit peu de manière équilibrée par rapport à ça. Parce que la Bible ne nous amène pas simplement à mépriser le zèle, à se moquer d'eux, à les critiquer, dire ouais, bon, ce sont des gens un peu farfelus, un peu fous. Mais ça ne nous amène pas non plus nécessairement à imiter le zèle de n'importe qui est zélé. Mais plutôt d'évaluer leur zèle et la cause, la source de leur zèle, pour savoir. Donc ce matin, ce qu'on va dire, c'est que nous sommes zélés, mais libres. Zélés pour les bonnes raisons et par la liberté que nous avons en Christ. On va lire dans l'Épître aux Galates, l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 8. Ça va être affiché sur les écrans, mais c'est toujours utile d'avoir la Bible sous les yeux. Donc je vous encourage à avoir la Bible. Il y a une Bible là au fond, vous pouvez vous servir. La lettre aux Galates, petite lettre que nous sommes en train d'écouter régulièrement, semaine après semaine, et on est arrivé au chapitre 4, verset 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir travaillé inutilement pour vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'Évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau des douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. À partir de cette partie de la Bible, en fait, on va se poser trois questions. Trois questions qui nous interpellent. D'abord, sommes-nous affranchis ou asservis? Si vous êtes nouveau comme moi c'est mon premier dimanche aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, alors vous ne connaissez pas nécessairement ce thème d'être affranchi, mais c'est en fait le thème de toute la lettre de Paul aux Galates. Être affranchi, être libre. Et ceux qui sont là régulièrement depuis plus longtemps que moi, vous avez entendu semaine après semaine que Dieu veut que nous soyons affranchis, ça veut dire libres. libre du péché, mais libre aussi de la loi, pas sous l'esclavage de l'ancien système. Si on revient juste au verset avant, les versets que nous avons lus, verset 7, on peut lire ceci. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. C'est ce qu'on avait entendu la dernière fois. On n'est plus esclave, maintenant on est fils. On a un statut privilégié dans la famille de Dieu. Nous sommes libres. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui vient après, qui va troubler les gens de Galate. Mais tout d'abord, Paul commence en rappelant le grand changement, l'énorme changement qui a eu lieu dans leur vie. Il commence en disant ce qu'il y avait avant, verset 8. Avant, autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez, vous étiez esclaves des dieux qui, par nature, ne le sont pas, des divinités qui n'existent pas, en fait. Ils avaient des noms. Dans le polythéisme grec, il y avait différentes divinités, mais en fait, ça n'existe pas. Ils n'ont pas de réalité. Mais maintenant, verset 9, vous avez connu Dieu. Il a révélé, au début du chapitre, qui est ce Dieu que nous connaissons. Le Dieu qui a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Le Fils de Dieu, que nous appelons Jésus. C'est aussi le Dieu qui a envoyé son Esprit dans notre cœur. L'Esprit de Dieu qui vient chez le croyant, qui habite en nous, pour que nous puissions dire « Abba, Père » et appeler Dieu notre Père. Et le Père, on voit le Fils et on voit l'Esprit. Ce Dieu Trinité, nous le connaissons. Nous connaissons le vrai Dieu. Ça, c'est un énorme changement de ce que nous avions avant. Nous adorions toutes sortes de dieux, de divinités qui n'étaient pas Dieu. Et maintenant, nous connaissons Dieu. Mais le changement est encore plus grand que ça. Parce qu'après, il va dire, en fait, vous êtes connus de Dieu. C'est-à-dire que nous avons cette relation personnelle, intime. Le verbe connaître dans la Bible est un verbe relationnel. C'est toute une différence de simplement connaître quelqu'un. Si vous travaillez dans les ressources humaines, vous connaissez l'habitude de recevoir des CV. Et les CV vous donnent des informations sur le candidat qui cherche un boulot. Son nom, où il est né, quelle a été sa formation. Vous pouvez dire, oui, je connais un petit peu le candidat. Mais après, vous l'avez en entretien généralement. Et là, vous apprenez à vraiment connaître le candidat ou la candidate. Parce que vous parlez avec elle, vous découvrez ce qu'elle a vécu, vous comprenez un petit peu son caractère. Alors là, vous pouvez dire, je connais la personne. Pas seulement parce que j'ai lu son CV, mais je la connais. C'est un peu pareil avec nous. Nous pouvons connaître des choses sur Dieu, mais finalement, nous le connaissons. Et lui nous connaît. Ça veut dire qu'il veut de nous, et il nous aime. Et il nous connaît personnellement, intimement, de jour en jour. On se connaît, Dieu et nous. Ça, c'est le grand changement qui a eu lieu dans notre vie. Nous avons donc été affranchis. Mais le problème est que ces chrétiens de Galate risquaient d'être asservis. Il y a vraiment un avant et un après. Avant, c'était l'idolâtrie. Ils étaient esclaves de cette idolâtrie. Vous savez qu'il y a beaucoup de religions aujourd'hui qui ont le même principe. C'est voilà, adorer ce Dieu, il faut faire ça et ça et ça pour Dieu. Ils étaient sortis de cela dans la liberté parce qu'ils avaient connu Dieu, mais ils risquaient d'être à nouveau asservis par des principes élémentaires, des principes de base, sans force, sans valeur. Ils allaient être asservis encore, verset 9. Et c'était quoi ? Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Sauf que ça avait un langage chrétien, religieux, juif. Ils sortaient de l'idolâtrie, ils entraient dans la pratique de la loi. Et Paul leur dit, en fait, c'est de l'esclavage à l'esclavage. Vous n'êtes pas vraiment affranchis. J'ai rencontré de temps en temps des ex-détenus, des hommes qui sortaient de prison. C'est difficile d'être un ex-détenu, de vivre en dehors de la prison, parce qu'on a eu certaines habitudes quand on était en prison. Et la chose qu'on craint particulièrement pour les ex-détenus, c'est qu'ils rechutent, ils récidivent. Peut-être qu'ils étaient en prison pour, je sais pas, un vol armé, à main armée. On ne veut pas qu'ils retournent en prison à cause de drogue ou d'autres choses, d'autres crimes. On a peur que, ayant reçu la liberté, quel cadeau de la liberté, ils se retrouvent à nouveau en esclavage. Et c'est un peu cette crainte que Paul avait pour les Galates, mais une crainte pour leur état spirituel, qu'ils restent libres. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ben, les Galates, les chrétiens commençaient à nouveau, verset 10, à faire attention aux jours. Ah, c'est le sabbat aujourd'hui, on doit faire attention, on arrête tout. Au mois, le premier mois, il y avait certaines fêtes qui se fêtaient dans le calendrier juif. On pensait aux grandes fêtes religieuses dans l'année. Et ça semble pas très grave. Mais est-ce que c'est vraiment important si on fête Pâques ou pas? Je sais qu'il y a certains chrétiens qui sont très intéressés par la Pâque juive, par exemple. Et nous fêtons peut-être Noël ou Pâques ou la Pentecôte en tant que chrétiens. Est-ce que c'est vraiment grave? Mais ce n'est pas grave si vous le faites dans le sens de ne pas vouloir faire avancer votre foi. Vous ne fêtez pas Noël ou Pâques pour vous recommander à Dieu. Mais dans leur calendrier, c'était tellement important de suivre ces fêtes parce que c'était une façon de dire, oh, maintenant on plaît à Dieu, on est sérieux, on va gagner la faveur de Dieu en obéissant à sa loi, à l'Ancien Testament. Et là est le problème. Parce que si on compte un peu moins sur la grâce et un peu plus sur notre obéissance à Dieu et à ses commandements, alors en fait, on défait notre liberté et on devient à nouveau asservi. Il fallait faire attention, parce que ces gens-là étaient vraiment zélés. Ils entraînaient les chrétiens galates avec eux dans leur obédience, mais ils risquaient d'en faire des esclaves. Et nous devons résister à cet appel qui semble être un appel à plus de zèle, à plus de sérieux, mais qui en fait est un appel à l'esclavage. Regardez comment Paul a résisté à cela au chapitre 2. Ça explique un petit peu l'arrière-plan de ce qui s'est passé. Chapitre 2, verset 4, il parle de ceux qui sont les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous. Ici, c'est à Jérusalem, n'est-ce pas? C'est pas dans le lieu de Galatie. Mais c'est le même principe. Des prétendus frères qui prétendaient être chrétiens, qui s'étaient glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Ah, c'est ça votre liberté. Alors, on va observer un petit peu votre liberté, avec l'intention de nous asservir, de nous rendre à nouveau esclaves. Et il dit, nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. On ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas enchaîner à nouveau. Et donc il y a un appel aujourd'hui à la résistance. Résistance à toute pression qui voudrait dire, ah, les vrais chrétiens, les chrétiens vraiment sérieux, ce sont ceux qui obéissent en plus à la loi de Dieu et pas seulement qui comptent sur la grâce de Christ pour être juste devant Dieu. Alors, ayant parlé de leur passé sans Dieu, avant vous ne connaissez pas Dieu, il va parler de leur passé avec Paul. Et cette partie de la lettre, on sent vraiment que c'est la lettre de quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre. C'est un peu le courrier de quelqu'un d'autre qu'on est en train de lire. Parce que c'est tellement personnel, il remémore la relation qu'il avait avec eux. Comment eux l'avaient aimé. Et comment il a commencé à vivre et à dire les bonnes nouvelles parmi eux. Alors nous n'avons pas cette même relation avec Paul. J'ai jamais rencontré Paul. C'est 20 siècles trop tard. Et ce n'est pas la même relation que nous avons même en tant que pasteur et église, parce que je ne vous connais pas encore. Mais lui avait tout ce parcours derrière lui sur lequel il s'appuyait. Et il voyait le risque qui entrait, qui était qu'il se détourne de lui, de Paul, en disant, ouais, il ne voudrait pas être comme Paul. Il ne voudrait pas être comme Paul. Et donc Paul va supplier au verset 12, soyez comme moi. Et il va nous questionner. Sommes-nous attachés à la vérité? Sommes-nous attachés à la vérité? Ça semble évident, mais c'est moins évident que ça n'en a l'air. Verset 12, soyez comme moi. Dans quel sens est-ce qu'on doit être comme Paul? Il dit, parce que moi aussi, j'ai été comme vous. Ça veut dire qu'il était libre de la loi comme moyen de se justifier. Lui, en tant que juif, aurait pu avoir tendance à se fier à la loi, son obéissance. Mais il avait compris que ce n'était pas comme ça que Dieu voulait qu'on soit juste devant lui. Je veux pas compter sur la loi, sur mon obéissance. Je veux compter sur la foi en Christ. Et les gens de Galate qui ne connaissaient pas Dieu avant, ils ont appris que c'était ainsi, qu'il fallait mettre leur confiance en Jésus seul, à la croix seule, et pas sur leur obéissance à la loi. Paul le dit de manière peut-être un peu plus claire en 1 Corinthiens 9, verset 21, et il dit ceci. Je pense qu'il est affiché. Voilà. Avec ceux qui sont sans la loi, j'ai été comme si j'étais sans la loi de Dieu, la loi morale. Ça ne veut pas dire qu'ils vivaient une vie de fou, mais qu'ils ne comptaient pas sur cette loi morale, la loi de Moïse, pour être justes. Et donc, ils voulaient leur montrer la voie. Ne comptez pas sur vos œuvres, comptez sur Jésus seul. Ils étaient devenus les mêmes. C'est une histoire extraordinaire comment un juif pharisien d'origine se retrouve parmi des jeunes turcs. Et il leur dit, on est les mêmes. Parce que tous les deux, on peut avoir accès à Dieu par le même moyen, le même sauveur, Jésus-Christ. Mais maintenant, ils voulaient être différents. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce qui s'était passé au début. Paul avait été là parce qu'il était malade. On ne sait pas exactement ce qui se passait. C'était une maladie que les autres pouvaient voir. Peut-être que c'était un problème des yeux. On ne sait pas exactement ce qu'il y avait, mais il était pitoyable. Il était presque répugnant tellement il était malade et faible, handicapé, pendant cette période-là en tout cas. Mais les autres ne l'ont pas méprisé, ils ne l'ont pas repoussé. Les gens de Galate ont dit, ah mais c'est Paul l'évangéliste. C'est Paul qui a une bonne nouvelle qu'il veut partager avec nous qui sommes même des non-juifs. Et donc ils l'ont accueilli comme si c'était un ange de Dieu, un envoyé du ciel. Peu importe s'il était répugnant physiquement, s'il ne les attirait pas, verset 14, il était accueilli comme Jésus-Christ lui-même. À l'époque, tellement ils avaient à cœur Paul, il dit, ils étaient prêts à arracher leurs yeux pour les donner à Paul. Ça leur aurait coûté les yeux de la tête. Peut-être que c'est vrai qu'ils avaient des frais pour son traitement médical. Ils s'occupaient de tout cela. Tellement ils avaient à cœur de l'accueillir parmi eux. Mais après le temps, Paul avait quitté cette région, bien entendu, il les avait laissés chrétiens en Christ, et il allait autre part. Mais d'autres sont glissés parmi eux et ont dit, vous savez les chrétiens, Paul, il était un peu faible. En fait, il était vraiment faible, n'est-ce pas? Vous voulez vraiment être comme Paul? Est-ce que vous préférez pas être des chrétiens musclés comme nous? Nous, on est sérieux dans la foi. On garde le sabbat. On prêche la circoncision. On ne va pas dire que c'est facile d'être chrétien. Non, c'est dur. Il faut travailler dur. Il faut obéir à fond. Il faut fêter la Pâque. Il faut faire les choses comme les juifs le font pour être vraiment chrétien, vraiment rigoureux, vraiment solide. Il faut faire des efforts énormes et pas être faible comme Paul. Paul doit leur rappeler qui il était et quelle relation ils avaient établie avec lui pour que ça reste, parce que les Galates se sont refroidis. C'est possible que dans notre cas, en fait, ce n'est pas la même chose. On n'a pas eu le même parcours. C'est possible que les premières personnes que vous avez rencontrées étaient les légalistes. Hein, tu avais un papa qui disait, ouais, dans notre maison, on vit comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y avait une maman catholique qui disait, on va à la messe, il faut aller à la confesse, il faut prendre l'hostie. Et c'est seulement après que tu as entendu la bonne nouvelle que nous pouvons être libres de tout cela. Peut-être que dans ton parcours, c'est un peu différent de celui des Galates. Mais le résultat est le même, c'est qu'on doit faire attention à qui nous écoutons. Nous devons faire attention à être attachés à la vérité et pas simplement à la tradition ou à l'obéissance que d'autres nous ont imposée. Parce que, en fait, les Galates se sont refroidis. Ils avaient bien commencé, mais ils ont fini en fait par avoir moins de zèle. Et Paul dit, vous savez, le zèle, c'est bien, mais il faut pas seulement l'avoir quand je suis parmi vous. Il faut l'avoir aussi quand je ne suis pas là. Est-ce que notre attachement à Dieu, c'est juste, ou la vérité, c'est juste pour une période? Quand on est tout feu, tout flamme, on est jeune, on est jeune dans la foi? Ou est-ce que ça continue au-delà? Nous savons que les gens changent et nous voyons que leur enthousiasme parfois baisse. Je le sais pour moi-même, mais je sais aussi pour d'autres personnes que j'ai accompagnées. On avait une dame à un moment qui était très intéressée par nos études bibliques et par notre prédication à l'église. Elle venait très régulièrement. Elle n'était pas croyante, mais elle était fort intéressée, fortement intéressée. Et puis après de longs mois, elle est venue me voir et elle a dit, ouais, j'ai trouvé un autre livre. C'était un livre qui était écrit par un gourou. J'ai trouvé un autre livre et ça annonce quelque chose de tout à fait différent de ce que j'ai entendu ici à l'église. C'est une façon tout à fait différente de voir la foi et la relation à Dieu. Et elle m'a dit, ça m'intéresse. Je suis intrigué, je veux aller suivre cet auteur-là et être avec lui. Je lui ai dit, attention, mets ton livre là sur la table. Et regarde la Bible. Est-ce que tu veux vraiment négliger la Bible et suivre ton livre là pour aller suivre ce gourou? Elle a dit oui, je pense que ce livre-là a vraiment de la valeur. Elle m'a dit, j'imagine que tu es déçu. J'ai dit, je ne suis pas déçu. Je suis triste. Je suis triste pour toi. Je sentais que c'était la dernière fois qu'on allait se rencontrer. Et c'était vrai, je ne l'ai plus revue après. Elle est partie, elle n'a pas écouté l'avertissement. On a à cœur d'être attaché à la vérité. Verset 16, c'est ce que Paul dit, n'est-ce pas? Et on vous annonce la vérité. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? En fait, ce n'est pas la popularité qui doit nous conduire. Si nous avons le rôle de dire la vérité aux autres, vous savez, on ne veut pas faire des adeptes. Jordan, Ray et moi, on est là pour vous servir. Mais on ne veut pas que vous soyez attachés à nous principalement, que vous deveniez nos disciples. On veut que vous soyez attachés à la vérité. Et que là où vous soyez, là où vous allez, vous puissiez rester connectés à la vérité. Et donc la question à se poser, c'est, sommes-nous attachés à une personne? Est-ce qu'on vient parce qu'on est attaché à une personne, à l'église? Ou est-ce qu'on vient parce qu'on est attaché à la vérité qu'il proclame? C'est la question clé. Les Galates devaient revenir à la vérité, se souvenir de ce que Paul leur avait instruit, et pas vivre dans l'indifférence qui allait les éloigner de Christ. Et dans la dernière partie, Paul pose une troisième question, c'est sommes-nous zélés pour Christ? Et il va vraiment revenir sur le thème du zèle, et là je pense que ça va vraiment nous aider à comprendre le zèle. En fait, il y a un mauvais zèle. Il y a un mauvais zèle. Red Bull vous donne des ailes, Dieu nous donne du zèle, mais il y a un mauvais zèle. C'est celui qui est décrit au verset 17. Les zèles que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, n'est pas bon. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. C'est un zèle égoïste. C'est un zèle que montrent les sectes. Les sectes vont souvent pas gagner des gens qui sont complètement contre Christ pour en faire des membres de leur secte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont viser les gens qui sont déjà un peu dans l'Église. Des gens qui ont été touchés par le vrai évangile, ils vont essayer de les trouver comme une cible en disant, vous êtes intéressés par Dieu, eh bien venez suivre notre voie. Ils vont les attirer vers eux. Ce zèle est mauvais. Paul lui-même relate au chapitre 1, verset 14, qu'il était animé d'un zèle excessif pendant qu'il était dans le judaïsme. Ce n'est pas ce zèle-là qu'il faut avoir. Donc, pas le mauvais zèle égoïste ou excessif pour la tradition de nos ancêtres ou pour l'Ancien Testament ou pour la loi, mais il y a un bon zèle, verset 18. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien. Ce zèle-là n'est pas mauvais. Et je dois vraiment vous montrer cet équilibre-là, parce que c'est subtil. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas là juste pour dire, oh non, le zèle, laisse tomber, hein. Je vois quelqu'un qui est zélé, ben je ne vais pas l'imiter. Je vais me méfier de son zèle. Parce que Jésus lui-même dit dans l'Apocalypse, aie du zèle et repens-toi. Et donc, c'est bien qu'on soit zélé. Paul ici dit, il est beau d'avoir du zèle constamment. Être zélé est bien si on est zélé pour Christ. Ça, c'est important. D'ailleurs, quand on pense à Jésus, Jésus lui-même était tellement zélé que les gens l'ont vu dans le temple en train de purifier tout et dire, allez, on balance tout, tout ce qui est ajouté à la simple foi, à la simple relation de prière à Dieu. Et on a dit de lui, le zèle pour ta maison me dévore. Jésus était zélé. Paul était zélé en tant qu'évangéliste. Nous sommes appelés à être zélés en tant que chrétiens. Aie du zèle et repens-toi, mais n'aie pas seulement le zèle que les autres ont. Alors c'est possible qu'aujourd'hui tu aies besoin de plus de zèle. Qu'aujourd'hui tu te dis, je suis un peu chrétien sur le canapé. Moi, quand je pense que je dois faire un effort pour Dieu, je dis, oh non, laisse tomber. Je ne vais pas donner. On ne me demande pas mon temps. Je ne vais pas lire ma Bible. Je suis juste tranquille, quoi. Voilà, je suis sauvé, c'est bon. Et ce serait la mauvaise chose à comprendre de ce message. Je ne veux pas critiquer le zèle. Dieu veut que nous soyons zélés. Et c'est possible de penser à tous les critères qu'on a évoqués au début par rapport au zèle. Ils ont de la ferveur pour Dieu. Ils parlent du Seigneur. Ils prennent la Bible au sérieux. Ils sont très pratiquants. Et dire oui, c'est ce zèle-là qu'on veut. On veut avoir ce zèle. On veut être fervent d'esprit. On veut chanter des louanges au Seigneur. On veut parler de lui partout où on va. On veut être pratiquant à fond. À fond dans la... Dans le christianisme, à fond pour Christ. Mais c'est dans quel but? Verset 19. Pour que Christ soit formé en vous. Alors il mélange un petit peu toutes les images là autour de la grossesse et de l'accouchement. Verset 19. J'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Un peu particulier ça, n'est-ce pas? Et je pense qu'en fait, c'est deux images différentes, mais qui sont mêlées dans le même verset, et qui sont reliées à la grossesse. D'une part, Paul pense à combien il est dans la peine. J'ai été témoin de trois accouchements dans ma vie. Chaque fois, j'ai observé la peine, la douleur de l'accouchement. Merci qu'il y a les péridurales aujourd'hui. Mais la douleur est là. Mais il y a aussi le travail. On appelle ça le travail, n'est-ce pas, accoucher. Et c'est vraiment du travail. Et Paul était là en train de dire, il avait fait tout cet effort pour leur dire l'évangile, pour leur expliquer qui est Christ, pour leur dire que Dieu sauve, qu'ils doivent mettre leur confiance en Christ, Christ crucifié, ressuscité. Et puis là, il a le sentiment qu'il doit retravailler. Allez, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, revenez à Christ. C'est la douleur de l'enfantement pour qu'ils puissent être des vrais chrétiens. Il a le sentiment de devoir retravailler, de recommencer tout cet accouchement. Mais l'autre image qu'il utilise, c'est que Christ est formé en nous. Ça veut dire, c'est l'idée que on attend un enfant. Et l'enfant, en fait, intérieurement, c'est Christ qui se forme, qui grandit en nous. On n'a pas vraiment l'habitude de penser à cela, on a plutôt l'habitude de dire nous sommes en Christ, parce que Christ est plus grand que nous. Mais ici, il est en train de dire, c'est que Christ doit, son caractère, son être doit se développer en nous, pour que l'on puisse dire, comme Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, si nous sommes en Christ, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est ce que nous devons travailler aussi. Que lui-même, Christ, par son esprit, soit formé en nous, pour qu'on puisse dire, je suis tellement différent de ce que j'étais avant, parce que maintenant j'ai un amour, une relation pour Dieu. J'ai envie de prier, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de produire le fruit de l'esprit, d'être pur, saint, bienveillant, rempli d'amour, rempli de joie. Ah, j'ai envie de ça, que Christ grandisse en moi. Il y a encore du travail à faire. Vous voyez, ils étaient nés de nouveau, mais ils devaient travailler pour que, quelque part, Christ s'exprime de plus en plus dans leur vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous devons être zélés, mais pas pour acquérir le salut. Ce n'est pas l'idée qu'on va essayer de gravir une échelle et dire, voilà, avec mes efforts, avec mon obéissance, je vais arriver au salut. Ce n'est pas dans le but de dire, voilà, je vais faire tellement de choses que finalement Dieu va approuver de moi et va dire, oui, toi, tu es un des bons, je te sauve. Ce n'est pas ça. Mais vous avez déjà compris ça parce que pendant plusieurs semaines, vous l'avez entendu. Mais ce n'est pas non plus être zélé pour un leader ou une personne en particulier. Nous ne vivons pas notre vie chrétienne pour quelqu'un, un autre chrétien. Que ce soit un leader, un pasteur, un prédicateur, un conférencier, une sœur, ce n'est pas ça. Nous vivons notre vie zélée pour Christ. Et c'est là où nous voulons arriver. Attention à ceux qui vous attirent à eux, mais soyons zélés pour Jésus-Christ. Je veux terminer simplement en pensant à Jésus et pourquoi on devrait être zélé pour Jésus. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas qu'on devienne des disciples de Paul. Et de Paul ici, ou de Paul dans la lettre aux Galates. C'est qu'on considère que Jésus est celui qui est le trésor de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père. Bien-aimé, parfait, venu dans notre humanité, mais pleinement Dieu, qui est allé à la croix pour payer pour toutes nos fautes, qui les a ensevelis avec lui, et qui vit aujourd'hui, et qui est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Jésus doit nous donner du zèle, parce que Jésus est formidable. Et c'est lui qui va renouveler notre foi, et notre envie, et notre amour, et notre zèle. C'est en lui que nous allons trouver la force pour vivre la vie qu'il nous demande de vivre. N'est-ce pas? Nous devons être zélés pour lui. Mais je veux faire un appel particulièrement à ceux qui sont peut-être confus, ou qui sentent que leur zèle diminue, ou qu'ils se sentent refroidis, tout simplement. Et je voudrais vous appeler à donner une deuxième chance à Jésus. Peut-être que tu te dis intérieurement, en fait, j'ai déjà essayé avec Jésus, et ça n'a pas marché. Rien n'a changé dans ma vie. Oui, j'ai commencé avec Jésus, c'était bien, j'avais du plaisir à entendre la bonne nouvelle, celui qui m'a annoncé ça. Mais après, avec les Galates... avec Paul, avec l'enseignement, avec toutes les pratiques, etc. Je me suis un peu perdu, je ne sais pas en fait ce que je fais là. Donne une deuxième chance à Jésus. Il mérite tout. Il mérite ton cœur, il mérite ton temps, il mérite ta vie. Jésus est celui qui nous appelle tous à le mettre au centre de notre vie. Pas un homme ou une femme autre que lui, juste lui. Et si tu décides, oui, en fait, je veux vivre pour Jésus, je veux qu'il soit premier dans mon cœur, alors il y a tout qui change. Et Dieu vient à notre rencontre dans sa grâce, il nous pardonne, il nous prend avec nous, il nous façonne, il nous change. Alors c'est un appel à ceux qui ont besoin de renouvellement, de trouver notre zèle à nouveau en Christ. Et si nous n'avons pas ce zèle aujourd'hui, eh bien demandons-le simplement. Que Dieu nous donne son zèle, que Dieu nous donne par son esprit de vivre pour lui. Amen. Je vais prier. Notre Dieu, nous avons tendance à être influencés par les autres, parfois en bien, parfois en mal. Et ce n'est pas mauvais d'avoir des modèles. Mais nous voulons, Seigneur, éviter d'être asservis par toute personne qui voudrait nous attirer après elle, plutôt que simplement rester fidèle à toi, attaché à toi, à la vérité sur toi. Seigneur, tu connais l'état de notre cœur. Tu sais là où nous avons été refroidis, alors donne-nous plus de zèle pour Christ, qu'il puisse être le premier dans notre cœur, notre meilleure part dans toute notre vie, parce qu'il est celui qui nous aime et celui qui s'est donné pour nous. En son nom, Seigneur, nous voulons te remercier et nous voulons venir à toi. Que tu nous acceptes tels que nous sommes, que tu nous pardonnes, que tu nous accompagnes, que tu nous fortifies. Renouvelle notre zèle en toi. Amen.